Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère sur le 88.4. Vous écoutez l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions environnementales et solidaires de la région de Marseille. Nous sommes le mercredi 5 avril 2023 et nous sommes en direct ce soir de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain de 9h à 10h, ainsi qu'en podcast sur internet lorsque vous tapez radiogalère.fr écoforum. Je suis Marin Maufray et accompagné ce soir en régie de Camille, qui n'a pas de micro et qui vous salue. Et nous recevons ce soir trois de nos invités, Léa Collin, avocate au barreau de Marseille. Bonsoir.
Bonsoir.
Émile, juriste en droit des étrangers. Bonsoir. Et Félix, tu étais à Sainte-Soline la semaine dernière et tu nous parleras de l'actualité qui s'est passée sur place. L'émission de ce soir va se composer en deux parties qui aura un fil rouge qui est celui de la politique menée par le ministère de l'Intérieur et principalement par le ministre Gérald Darmanin. Sachez que nous sommes en ce moment même en train de s'assurer que chacun et chacune puisse pouvoir parler correctement. Et donc je vais vous laisser vous présenter. Donc cette émission, on aura une première partie où on va d'abord parler de la loi Asile et Immigration qui est actuellement en cours de discussion au Parlement et principalement au Sénat. Et dans la deuxième partie, on parlera de l'actualité récente et notamment les interventions policières qui ont eu lieu à Sainte-Soline. Mais on commence tout de suite avec vous deux, Léa et Émile, pour nous parler du projet de loi actuellement en discussion au Parlement, qui est celui de la loi Asile et Immigration. Est-ce que vous voulez d'abord vous présenter un petit peu rapidement et ensuite on rentrera dans le fond de la discussion?
Oui, merci Marin. Je m'appelle Émile, je suis juriste en droit des étrangers à Marseille. J'ai l'occasion d'accompagner des demandes en lien avec le droit des étrangers, des demandes de carte de séjour, des demandes de renouvellement, etc. Et du coup, on est confronté à un public qui est très intéressé par cette réforme Darmanin et qui, en tout cas par ce projet de loi, et qui projette pas mal de ses espoirs dans ce projet de loi.
Merci Émile. Léa.
Bonsoir, je m'appelle Léa Collin, je suis avocate au barreau de Marseille et je travaille dans un cabinet où on pratique exclusivement la défense des droits des personnes étrangères.
Merci Léa. Et donc tous les deux, quand on a préparé cette émission, vous avez estimé que c'était pertinent ce soir de pouvoir nous présenter la loi Asile et Immigration qui est actuellement en discussion au Sénat. Est-ce que vous voulez d'abord nous présenter vraiment dans les grandes lignes cette loi, son contexte, avant ensuite de la discuter un peu plus précisément dans ces différentes mesures?
Ouais, tout d'abord, il y a quelque chose de très... d'assez symbolique dans la loi Asile et Migration, dans le projet de loi, c'est cette carte métier sous tension qui est présentée par le ministre comme étant une avancée, une possibilité de régularisation possible pour des personnes, mais qui à nous paraît être quelque chose en fait comme un espèce de mirage.
Ouais.
Donc comme quelque chose qui est présenté pour embellir le tout, mais qui finalement n'a pas beaucoup d'impact sur la vie des personnes.
Mmh.
Et pourquoi ? Parce qu'il prévoit d'avoir une carte de séjour, métier sous tension, et cette carte de séjour, elle a plusieurs inconvénients. La première, c'est qu'on oublie de dire qu'il existe déjà une procédure possible pour la régularisation des travailleurs sans papier, que la liste des métiers sous tension est une liste qui est hyper restrictive, qui aujourd'hui est déterminée par un arrêté qui a été donné en avril 2021 et que dans cet arrêté, beaucoup de métiers ne figurent pas. Par exemple, en région PACA, la restauration ou le bâtiment ne sont pas des métiers qui sont considérés sous tension, alors que c'est complètement déconnecté avec la réalité des besoins des employeurs. Un troisième souci, on a assez souvent des petits entrepreneurs des petits patrons qui viennent nous voir et qui disent « j'aimerais bien régulariser telle personne qui est demandeur de papier, je ne peux pas le faire. Est-ce que avoir cette carte pourrait aider ?» un métier aujourd'hui est sous tension. Il pourrait avoir une carte métier sous tension, mais qu'est-ce qui se passe si dans un an, deux ans, trois ans, le métier n'est plus sous tension ou n'est plus considéré comme tel par les arrêtés qui vont être définis? Les employeurs n'ont pas de visibilité là-dessus et ça sera un obstacle administratif supplémentaire pour les travailleurs en France qui sont demandeurs de papier. On rajoute à ça un quatrième point, c'est le fait que pour être un travailleur qui demande des papiers et qui a besoin de son travail pour réussir à obtenir ses papiers, c'est quelqu'un qui va être en position de très grande faiblesse par rapport à la personne qui l'emploie. S'il a envie de se syndiquer, si ses droits au travail ne sont pas respectés et qu'il souhaite contester cela, sachant qu'il a besoin de ce travail pour avoir une carte de séjour, ça va être compliqué. Donc on va se retrouver avec des personnes qui seront d'autant plus en situation de faiblesse par rapport à des grands employeurs. Et finalement, nous, ce qu'on constate, c'est que vraisemblablement, cette mesure marketing ne va pas favoriser les travailleurs qui sont demandeurs de papier, ne va pas favoriser les petits entrepreneurs qui aimeraient, les petits employeurs qui aimeraient les accompagner dans ces démarches, mais va simplement favoriser les grands employeurs, le capital, dans ce rapport de force avec les travailleurs.
Peut-être que ce qui peut être particulièrement intéressant, c'est de mettre en lumière ce que tu viens de dire avec la présentation officielle qui est faite sur le site du Sénat et notamment qui vient accompagner les justificatifs de cette loi dans son ensemble, pas uniquement sur ce que tu viens d'aborder sur les métiers en tension. Donc je vous lis, soyez attentifs, il y a quatre points. Donc le projet de loi a pour objet, selon le gouvernement, point 1, assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et par la langue. Point 2, d'améliorer le dispositif d'éloignement des étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public. Point 3, de sanctionner l'exploitation des migrants et de contrôler les frontières. Point 4, d'engager une réforme structurelle du système de l'asile. Et point 5, de simplifier les règles de contentieux relatifs à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers. Ce qui est déjà assez frappant, c'est l'emploi de différents mots qui sont employés pour justifier la loi par rapport à la représentation directe et palpable pour les personnes qui la vivent. Léa, est-ce que tu veux aussi de ton côté nous faire l'introduction que tu souhaitais nous donner par rapport à cette loi ?
Oui, bah, déjà au-delà de la mesure phare qui est par rapport aux cartes de séjour des métiers en tension que présentait Émile, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres mesures qui posent problème dans le projet de loi tel qu'il a été amendé par la commission du Sénat il y a quelques jours. Et ce n'est pas possible de faire une présentation qui est exhaustive ce soir. Cette liste, elle peut être retrouvée sur le site du Sénat. Mais pour illustrer un petit peu l'ampleur du programme, pour illustrer un petit peu la gravité de ce projet de loi, avec quelques exemples. Par exemple, la commission des lois du Sénat vient de voter une proposition de supprimer l'aide médicale d'État qui serait remplacée par une aide médicale urgente. Donc l'aide médicale d'État, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de protection maladie des personnes qui sont en situation irrégulière depuis plus de 3 mois sur le territoire français et qui habitent en France et qui ont vocation à continuer d'habiter en France. C'est une mesure qui, l'AME, c'est donc l'aide médicale d'État, c'est une mesure qui est très souvent remise en question par ses détracteurs. Et c'est pas forcément à juste titre, parce que pour information et pour recontextualiser la place de l'aide médicale d'État dans le budget de la sécurité sociale, et pour essayer de comprendre à quel point la place qu'occupe l'aide médicale d'État dans le débat public et qui est complètement disproportionnée par rapport au budget que ça représente, l'aide médicale d'État, c'est environ 920 millions d'euros, d'euros par an pour un budget de sécurité sociale qui a 470 milliards d'euros par an, avec une branche qui est consacrée à la partie maladie qui est de 209 milliards par an. Donc si on met en proportion les 920 millions d'euros consacrés par an à l'aide médicale d'État par rapport à la branche consacrée à la santé au sein de la sécurité sociale, c'est 0,4% du budget de cette branche consacrée à la santé. Donc on ne peut pas prétendre à un réel enjeu financier pour la France. Et à mon sens, cette proposition et cet amendement, ils reflètent plutôt une peur de l'appel d'air, la théorie de l'appel d'air, c'est-à-dire que c'est la peur que si on propose des conditions correctes aux personnes étrangères en France, si on leur propose des conditions correctes et décentes, ça, soi-disant, ça encouragerait les personnes à venir en France, alors que cette théorie, ce mythe de l'appel d'air est complètement démonté de manière universitaire et scientifique par les chercheurs, par les économistes, par les sociologues. Et sur tous ces mythes, que ce soit l'appel d'air ou d'autres par rapport à la migration, je vous invite par exemple à aller voir sur le site internet de Desinfox Migration, qui permet de un peu rétablir la vérité sur tous ces mythes qui concernent les personnes étrangères en France. Un autre amendement qui vient d'être...
Est-ce que je peux apporter un élément avant de parler de l'autre amendement, pour continuer sur ce que tu venais de dire par rapport à l'aide médicale d'État? Je peux vous lire ce qui se trouve sur le site du Sénat quand on va chercher la loi et que l'on tombe sur le document qui s'appelle l'essentiel, qui se veut donc être le document qui vient synthétiser les différents éléments. Déjà, si on questionne uniquement la forme, si jamais vous souhaitez lire ce document, c'est l'emploi des termes et les jugements de valeur qui sont émis à ce titre-là. Donc la question sur l'aide médicale d'État se trouve dans un point 2 qui s'appelle la position de la commission des lois et de doter la France d'une réelle stratégie en matière migratoire. Et ensuite, le point A, c'est maîtriser les voies d'accès au séjour et lutter contre l'immigration irrégulière. Donc il y a tout cet enjeu de la maîtrise et de dire que sinon ça devient incontrôlable qui se trouve là-dedans. L'emploi de l'appel d'air se trouve pas à ce niveau-là, mais il est utilisé dans ce document-là, qui est donc un document officiel par le Sénat, donc par le Parlement. Et il est écrit « La commission des lois a tout d'abord créé un nouveau titre dans le projet de loi intitulé « Maîtriser les voies d'accès de séjour et lutter contre l'immigration régulière » en rassemblant plusieurs dispositions additionnelles qui visent à établir des quotas en matière migratoire, car cela vient déplorer une vision d'ensemble qui serait défaillante au regard de la stratégie migratoire de la France. Et donc la commission du Sénat souhaiterait, conformément à une position constante du Sénat, permettre au Parlement de déterminer, dans le cadre du débat actuel, pour chacune des catégories de séjour, à l'exception du droit d'asile, le nombre d'étrangers admis à s'installer durablement en France. Et donc pour ce qui concerne les questions liées à l'AME, il y a une volonté d'opérer une réforme structurelle de celle-ci, qui serait donc conformément à la position constante du Sénat, et l'AME serait transformée en une aide médicale d'urgence centrée sur la prise en charge des pathologies les plus graves. Ça, c'est ce qui est indiqué. Et il est aussi indiqué qu'il souhaite resserrer le bénéfice du titre dit « étranger malade » en revoyant le principal critère actuel qui est le défaut d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Et ce qui est assez questionnable, c'est quand ils disent « selon une position constante du Sénat », comme si c'était quelque chose d'évident. Et juste pour donner un petit point de contexte, le Sénat a 348 sénateurs, dont 145 sont des sénateurs qui sont des sénateurs LR. Et ensuite, il y en a en plus 57 qui sont des centristes. Et donc, cela fait en sorte que ce Sénat penche clairement du côté droit. On aura l'occasion de reparler un petit peu après de tout ce qui concerne les navettes parlementaires. Mais comme vous le savez sans doute, l'Assemblée nationale, elle, et on le dira un peu plus tard, n'a pas du tout la même composition en termes de représentativité politique. Et ça questionne de dire, selon la position constante du Sénat, comme c'était quelque chose d'homogène, alors même que ça traduit une orientation politique qui est assez claire. Mais je te rends la parole, ça c'était des petits éléments que je voulais apporter en plus sur l'AME, pour le prochain amendement que tu souhaitais nous présenter.
Mais aussi pour rebondir, c'est vrai que sur la position constante du Sénat, en fait c'est pas la première fois que le Sénat essaye de faire passer cette réforme sur l'aide médicale d'État et essaye de supprimer l'aide médicale d'État. Après, je ne vais pas épiloguer ici sur le non-sens de cette proposition, parce que ça serait trop long. Mais en tout cas, ça n'a aucun sens, que ce soit d'un point de vue médical, d'un point de vue de santé publique, d'un point de vue financier et d'un point de vue humain, tout simplement. Donc ça n'a vraiment aucun sens sur peu importe la manière dont on aborde le problème. si ça n'a aucun sens si on venait à supprimer l'aide médicale d'État et à la remplacer uniquement par l'aide médicale urgente. Enfin, voilà. Et justement, sur un autre amendement qui est passé par la commission des lois au Sénat, c'est sur ce, comme tu le disais, le titre de séjour pour les personnes qui sont très malades. Et en fait, là, on est sur un retour en arrière. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années, le titre de séjour, donc les, en gros, les conditions, c'est de dire est-ce qu'une personne bénéficie d'un traitement en France en l'absence duquel des conséquences d'une exceptionnelle gravité auraient lieu ? Et si oui, est-ce qu'elle peut accéder de manière effective au traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ? Il y a quelques années, la loi était... Ne parlait pas du critère de l'effectivité de l'accès aux soins dans le pays d'origine, mais de l'existence. Et en fait, c'est là qu'il y a une nuance qui est hyper importante, parce que si un traitement et un plateau technique médical existent dans un pays, ça ne signifie absolument pas qu'une personne peut y accéder de manière effective, que ce soit pour des raisons d'assurance maladie, que ce soit pour des raisons géographiques, des raisons financières ou toute autre raison. Donc là, on est sur une proposition de retour en arrière. Et aussi, sur ce titre de séjour étranger malade, il y a un projet, je ne vois pas comment ils peuvent arriver à le passer, mais qui serait de dire que si une personne a un titre de séjour étranger malade, ce serait à son pays d'origine de financer ses soins en France. Ce qui implique qu'au-delà de cette loi qui est en train d'être votée, il faudrait que l'État français passe des conventions bilatérales avec chacun des pays du monde pour que chaque pays du monde accepte de payer les soins de ses ressortissants étrangers, enfin de ses propres ressortissants qui sont en France et qui sont gravement malades et qui ont un titre de séjour pour ce motif. Donc, je ne vois pas trop comment ils peuvent arriver à ça, mais ça impliquerait ces conventions bilatérales. Et ils veulent aussi remettre en cause, ça vient d'être voté, sur la possibilité... En fait, quand on demande un titre de séjour, on va dire étranger malade, il y a... Il y a quelques années, c'est passé d'une compétence des ministères, du ministère de la Santé au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que c'est des médecins qui relèvent du ministère de l'Intérieur qui examinent si la personne rentre dans les conditions légales ou pas. Et donc, ce ministère de l'Intérieur, c'est une administration qui s'appelle l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, donc qui a désormais un service médical. Et ces médecins, donc avec ce projet de loi tel qu'il est amendé par la commission du Sénat, il pourrait demander au médecin de la personne qui demande un titre de séjour des informations supplémentaires sans l'accord de la personne. Donc on est vraiment sur un non-respect de l'éventuel secret médical, du consentement de l'intéressé et sur un retour en arrière par rapport aux petites avancées qui avaient pu avoir lieu. Et sinon, pour passer à d'autres amendements qui viennent d'être votés par la commission du Sénat, il y a par exemple sur le regroupement familial. Donc le regroupement familial, c'est une mesure qui permet à des personnes qui habitent en situation régulière en France depuis plus de 18 mois, qui justifient d'un logement suffisamment grand et de ressources suffisamment élevées, c'est leur permettre d'être rejoints par leur famille au sens du partenaire et des enfants, qui les rejoignent en France. Là, les amendements qui viennent d'être votés par la commission des lois du Sénat, c'est non seulement faire passer la durée de résidence régulière en France de 18 à 24 mois.
Qu'est-ce que ça a comme implication concrète ?
Ça veut dire qu'une personne, il faut qu'elle ait 6 mois de plus en situation régulière en France, donc qu'il faut qu'elle attende encore plus longtemps. Et ça implique aussi une séparation encore plus longue avec l'époux, les enfants... qui sont encore dans le pays d'origine, concrètement. Et par rapport à ces personnes de la famille, donc au sens nucléaire du terme, qui sont dans le pays d'origine, l'amendement aussi demande à ce que ces personnes, donc qui n'ont encore aucune certitude sur le fait d'avoir le droit de venir ou pas, qu'elles justifient d'un niveau suffisant de français. Alors qu'elles ne sont même pas encore sûres de pouvoir venir et qu'elles n'habitent pas encore en France. Sinon, sur un autre amendement qui vient d'être voté par la commission des lois du Sénat, il y aurait également un refus automatique du contrat jeune majeur pour des jeunes majeurs, c'est-à-dire qui ont entre 18 et 21 ans, qui feraient l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent en France qui sont mineures et qui sont seules. Et parmi ces personnes, il y en a certains qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui, à leur majorité, doivent demander un titre de séjour pour pouvoir être en situation régulière sur le territoire français. Pour plein de raisons différentes, il y a beaucoup de refus de titres de séjour qui sont illégaux. Mmh. Et donc, qui sont assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Et donc là, concrètement, l'amendement, il propose que s'il y a un refus de titre de séjour avec une obligation de quitter le territoire français pour ces jeunes, ils ne puissent pas bénéficier du contrat jeune majeur, donc qui est censé les accompagner et les soutenir de leurs 18 à leurs 21 ans, alors même que ces personnes peuvent saisir le tribunal d'un recours en annulation contre l'obligation de quitter le territoire français. Donc moi, ce que je me demande en lisant cet amendement, c'est qu'en est-il en fait de du droit au recours effectif et en fait, il y a une sorte on va préjuger de la légalité d'un arrêté préfectoral alors même qu'il fait l'objet d'un recours au tribunal et alors même qu'il est censé être suspendu à partir du moment où ça fait l'objet d'un recours. Mmh. Donc voilà, il y a plein d'autres amendements. Je ne sais pas si, Émile, tu veux continuer sur les amendements.
Il y a surtout, je trouve, une philosophie d'ensemble dans le projet de loi, avec d'un côté la proposition d'une mesure phare qui, finalement, ne sert qu'à faciliter les grandes entreprises à pouvoir recruter sur place une main-d'œuvre qui aurait du mal à défendre ses droits et qui permet de déguiser une multitude d'atteintes au droit, au respect de la vie privée et familiale. Mmh. Et il y a peut-être quelque chose que je trouve intéressant à dire sur ce respect. Beaucoup de cartes de séjour qui sont délivrées sont des cartes qui portent la mention vie privée et familiale. Et j'aime bien rappeler que la défense de ce droit au respect de la vie privée familiale n'est pas une faveur qui est accordée par l'État français aux personnes de nationalité étrangère présentes ici. C'est plutôt le résultat d'un rapport de force qui existe entre l'État français et une cour internationale qui est la Cour européenne des droits de l'homme, qui dans son article 8 protège pour tous les citoyens, pour toutes les personnes qui résident sur le territoire européen au sens large, qui englobe la Russie et la Turquie, pour protéger ce droit au respect à la vie privée familiale. Et c'est ça, fondamentalement, ce droit-là, que les différentes réformes politiques et la réforme Darmanin essayent d'attaquer dans les détails, en ayant en tête le fait que la migration générale doit être une migration utile à l'économie française, sinon elle ne doit pas exister. Et on doit mettre sous le tapis la protection des droits de ces personnes.
Sachant, pour aller un peu plus loin dans les choses un peu cyniques, que si on reprend le document qui présente cette loi au Sénat, le premier point, c'est face à la reprise des flux migratoires, un projet de loi qui n'est pas à la hauteur des ambitions affichées. Et tout le long, le Sénat dit que la proposition qui leur a été soumise par le Parlement n'était pas suffisamment ambitieuse, qu'il y avait trop d'angles morts, qu'elle était finalement trop gentille et que le Sénat était venu compléter, renforcer les dispositifs, alors même que, comme vous le présentez tous les deux, il y a quand même une réflexion en amont qui est posée là-dessus. Et on aura l'occasion d'en parler d'ici quelques minutes quand on va parler un peu de la navette parlementaire qui se passe d'une façon assez singulière pour cette loi-là, avec des stratégies parlementaires pour en fait arriver à certaines fins politiques. Et là, je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur les chiffres que tu donnais, Léa. 0,04%.
0,4%, mais uniquement de la branche maladie du budget global de la sécurité sociale.
Voilà, donc on parle quand on parlait tout à l'heure d'aide médicale d'État, on parle de 0,4%, alors qu'on le monte dans le débat public à quelque chose de démesuré, et ça s'inscrit dans la lignée d'un programme politique et d'une certaine vision de la société où il y a énormément de détournement de certaines réalités pour les inscrire dans des procédés d'intention qui sont questionnables, si on veut rester poli ce soir à la radio.
Et la conséquence de ça, de cette philosophie et aussi de ces débats un peu techniques qu'on peut avoir, c'est très, très concret pour les personnes. Sont venues en permanence des personnes, une personne que j'ai en tête particulièrement, qui est en France depuis plus de 5 ans, qui est père d'enfants français, qui est marié avec une personne de nationalité française, qui donc pour toutes les raisons du monde devrait avoir le droit de rester en France parce que c'est en France qu'il a ses attaches personnelles et familiales, mais à cause de la dernière circulaire Darmanin, sous prétexte d'un passeport présumé faux, alors qu'en réalité il était juste non biométrique, mais présenté son nom, son prénom, sa date de naissance au moment du dépôt de la carte de séjour, la personne en question a reçu une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire. Il y a un vrai déni de ce que peut être le droit fondamental de cette personne. Mmh. Et on risque d'avoir un droit à la vie privée familiale qui se fait de plus en plus attaqué dans tous les sens par ici par le gouvernement, le Sénat avec ce projet de loi.
Sachant que là, tu parles de deux mesures qui sont combinées. L'une, c'est l'obligation de quitter le territoire et l'autre, l'interdiction de revenir sur le territoire. Et ça, c'est une orientation sur laquelle le ministre de l'Intérieur s'engage personnellement et demande d'ailleurs à ses préfets de s'engager personnellement sur ce sujet-là, qui se trouve dans la fameuse circulaire dont tu parlais. Est-ce que vous voulez toucher deux mots l'expliquer à nos auditeurs et auditrices, de savoir qu'est-ce qui se passe, quand c'était, quelle est la direction à donner?
Au mois de novembre 2022, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a rendu cette circulaire qui, à mes yeux, quand je l'ai lue, m'a paru être un petit guide pour que les préfectures puissent trouver la faille juridique afin d'expulser un maximum de personnes. Ça a été avec... on a pu en discuter un petit peu en off, Marin, quand M. Darmanin dit je souligne personnellement, en soulignant personnellement sur la circulaire, qu'il faut renforcer les contrôles, qu'il faut s'assurer que toute mesure d'éloignement puisse être prise. Il y a toute une partie aussi. C'est moins en lien avec le projet de loi Darmanin, mais c'est quand même très révélateur aussi pour les personnes qui bénéficient d'une protection internationale, qu'ils aient le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Quand ces personnes constitueraient une menace à l'ordre public sur des critères qui sont quand même assez malléables, assez profondément discutables, le ministre de l'Intérieur Darmanin suggère à la préfecture de police de bien fouiller s'il n'y a pas un échange mail entre la personne reconnue réfugiée et le consulat de son pays d'origine afin qu'on puisse l'avoir pour allégeance à son pays et qu'il puisse être renvoyé de cette manière. Il y a vraiment une idée de chasse à l'homme, moi, qui m'a marqué à la lecture de cette circulaire. Qui est profondément choquante et qui place bien la philosophie du ministre de l'Intérieur.
Sachant aussi que tout à l'heure, là, tu parlais de trouble à l'ordre public. L'ordre public, c'est une notion juridique assez centrale en droit administratif et qui est conjoncturelle finalement à la représentation que l'on se fait à une époque donnée de ce qui est censé être l'ordre public, de la même façon que ce qu'on considère comme l'intérêt général. C'est finalement la représentation socio-culturelle et historique de ce qu'on s'en fait à un moment. Et en mettant le curseur dans une direction très claire, on permet aussi de re-questionner ce qu'on considère comme l'ordre public, c'est-à-dire que l'ordre public aujourd'hui en 2022 n'est pas le même que celui qu'on pouvait considérer il y a 10 ans et n'est pas le même que celui qu'on pourra considérer d'ici 20 ans. Et là, finalement, ce que vous êtes en train de développer, c'est aussi le décalage et le positionnement du curseur sur lequel on participe aussi à le transformer. Léa, il me semblait que tu voulais rebondir.
Oui, tout simplement pour dire que l'ordre public, c'est une notion de droit administratif, c'est pas une notion de droit pénal. Et en fait, la nuance, elle est assez importante dans le sens où Non, ça permet à cette notion d'être très vaste, très floue et surexploitée. Et en n'étant pas une mesure de droit pénal, c'est une mesure qui ne bénéficie pas des garde-fous de la procédure pénale, puisque c'est une notion qui est administrative et que les préfets et les préfètes peuvent utiliser à leur libre appréciation. Et donc on est sur une augmentation en fait aussi des pouvoirs administratifs, des pouvoirs de police administrative sans garde-fous du droit pénal.
Merci Léa. Ce que je vous propose, c'est que là, nous avons eu notre première partie de réflexion, de discussion ensemble sur quelques bribes, mais il y en aurait tellement d'autres, de la politique du ministre de l'Intérieur en matière de relations avec les étrangers et les droits qu'ils ont sur le territoire français. On va faire une petite pause musicale et après cette pause, Léa, Émile et Félix nous parleront d'abord de la navette parlementaire qui existe pour le vote de cette loi et puis ensuite on viendra sur quelques actualités brûlantes, toujours de notre même ministre, sur d'autres sujets, mais toujours finalement dans une logique assez répressive. Je vous laisse nous présenter la musique que nous allons écouter et on se retrouvera juste après la pause.
Alors la musique c'est 11:30 contre les lois racistes. J'avais pas prévu cette question, donc je sais pas la date de sortie, mais il me semble que c'est dans les années 90-2000. C'est une musique qui a été écrite par un collectif de plusieurs rappeurs à l'occasion de la publication de plusieurs lois racistes successives. Je vous laisse écouter.
Merci, à tout de suite.
Une seule logique.
La chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines.
Un État raciste ne peut que créer des lois racistes.
Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête.
Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles.
Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France.
Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays.
Qu'ils soient français ou immigrés. Et au fait, qu'est-ce t'en penses, toi ?
Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Les lois qu'ils veulent mettre en application corroborent mon accusation. Trop de mes semblables pètent les plombs pris dans le tourbillon de l'immigration. Tout pays au monde expulse ses immigrés clandestins. C'est vrai, mais la France a une autre responsabilité entre les mains. Les faits sont historiques, le peuple français a fait couler son sang pour écrire noir sur blanc les bases d'une démocratie en Occident. Que les dirigeants s'en souviennent, attends, je les illumine. Droit d'asile pour les populations victimes de la misère du globe. Combattre le racisme, le fascisme, le sexisme et toutes sortes de xénophobes. Sans papier donc sans droit, sans droit donc écrasé par les lois. La justice nous taronne d'abat quand on voit ces desiderata. Au grand jour, je reste lucide dans mon faubourg et garde un œil sur les vautours.
Une excuse, les gens savent très bien pour qui ils votent. 52% de fils de pute à Vitrolles. Une fois pour toutes c'est clair, idem pour ces ministres miennes fielles. Votant des lois pour séduire ce type d'électorat. Rappelle-toi qui s'est battu pour la France. Couteau entre les dents rampant et rien dans la panse. Tu collaborais à l'époque chien, un tout docile. Heureux de voir les arabes débouler pour libérer ta ville. De choc ça devrait je traque, les faf en costard. La gauche caviar, la droite de la droite. Pouvoir moyen, resistenza, effet independenza. Tous égaux devant les lois, dixit sentenza.
Je suis comme un pionnier, je porte très haut le flambeau. Je place une pour les frères au préau. Mes rêves de trop fois 10 envois. Trop longtemps écrasé, étouffé, assoiffé, je rêve de révo. Je déborde, je tacle l'obstacle, enflamme les consciences qui s'évaporent. Les pores s'installent, s'étalent, tèche le beurre. Sur une étroite bordure, tout le monde sait que leur tort est creux et plein d'ordures. Ne voyez-vous pas, je ne comprends pas de vos pauvres. Baisse vos élites, je me sens plus fort, je prends des grades.
Nous sommes de retour sur Radio Galère sur le 88.4 en direct de 19h à 20h dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions environnementales et solidaires marseillaises. Nous sommes toujours avec Léa Collin, avocate au barreau de Marseille, Émile, juriste en droit des étrangers et Félix qui était la semaine dernière et les semaines d'avant aussi à Sainte-Soline. Nous allons continuer notre discussion où nous abordons ce soir la question des différentes politiques qui sont menées par le ministère de l'Intérieur. Nous avons eu dans un grand volet de première partie des discussions sur la loi Asile et Immigration qui traite de la question du droit des étrangers et qui, dans la ligne éditoriale de l'émission Écoforum, traite principalement des questions de solidarité, puisque ces questions de transition écologique et solidaire implique effectivement qu'on avance sur ces deux volets-là. Nous avons parlé du fond de la loi, nous allons prendre quelques minutes pour parler de la forme de la loi et du contexte politique dans lequel ça s'inscrit, avant ensuite de parler de questions qui sont plus d'actualité, même si la loi asile et immigration est évidemment d'actualité, mais il y en a eu d'autres, et il y en a souvent, plus ou moins malheureusement, avec le ministre de l'Intérieur récemment, avec premièrement une petite aparté sur ce qui va se passer à Mayotte dans les jours qui arrivent et ce qui s'est passé dans les jours qui nous ont précédés à Sainte-Soline. Je te donne la parole, Léa, pour que tu puisses un peu nous présenter le contexte de cette loi et la façon dont elle a été introduite au Parlement pour qu'elle puisse être votée.
Merci, Marin. Alors, le processus en fait, de fabrication de cette loi, il n'est pas anodin. Donc déjà, c'est une loi qui est un projet de loi, donc c'est-à-dire que c'est à l'initiative du gouvernement. Et le président de la République, Emmanuel Macron, qualifie ce texte de « texte inflammatoire ». Donc on est sur des enjeux très importants dont on a fait un résumé non exhaustif tout à l'heure. Et les décisions qui vont être prises, elles vont avoir des très lourdes conséquences sur les vies des personnes étrangères en France. Et quand j'utilise le mot « les vies » en fait des personnes étrangères en France, c'est pas une exagération, c'est au sens strict du terme. Parce que par exemple, quand on envisage de supprimer l'aide médicale d'État, il y a des conséquences concrètes et directes sur l'accès à la santé des personnes, donc sur la vie des personnes. Et pourtant, le gouvernement a choisi de faire voter cette loi en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il va y avoir une première lecture au Sénat après les amendements de la commission du Sénat. Donc les amendements, ils viennent d'être votés par la commission du Sénat. Il y aura prochainement la première lecture au Sénat, qui est encore plus à droite que l'Assemblée nationale. Et le texte qui arrivera ensuite à l'Assemblée nationale sera encore pire que le texte qui avait été initialement projeté par le gouvernement. Et on n'est pas sur une navette parlementaire classique, puisqu'on est dans une procédure accélérée. Donc il va y avoir un vote du Sénat, un vote de l'Assemblée nationale, et ensuite, s'ils ne sont pas tombés d'accord, on va aller direct en commission mixte paritaire.
Sachant que, pour paraphraser les mots de Guy Benaroche, qui est le sénateur Europe Écologie Les Verts des Bouches-du-Rhône, qui présentait il y a environ un mois environ cette loi ici à Marseille, la stratégie du gouvernement serait de présenter le texte initial qu'il souhaite faire passer d'abord au Sénat pour que le Sénat puisse le radicaliser et qu'ensuite cette version plus radicale revienne à l'Assemblée nationale, qui est plus hétéroclite en termes de représentation politique, et qu'à la suite des différentes discussions qui se fassent au Sénat, on revienne sur une position qui soit une position d'équilibre, qui en fait était la position que le gouvernement voulait avoir en première instance. Et donc de faire en sorte que le Sénat radicalise le texte pour qu'ensuite l'Assemblée nationale revienne sur la volonté initiale. Ce qui se questionne, on peut dire que politiquement c'est bien joué quand on a envie de porter des choses qui sont... dans le sens de ce que défend cette radio, mais pour ce qui concerne les vies humaines qui sont impactées derrière, et il y a une part de cynisme qui, là je parle en mon jeu, me questionne beaucoup.
Et là, donc, dans les derniers jours, ça a été annoncé que le calendrier pour les votes de cette loi est reporté et que le texte va certainement être fragmenté. Mais ça n'enlève rien à la gravité du texte qui est proposé, qu'il soit voté aujourd'hui ou demain, qu'il soit voté en un texte ou en plusieurs textes, le contenu en est tout aussi grave. Et au-delà de ce projet de loi asile-immigration qui est porté par M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il y a d'autres actions qui sont concrètes et qui sont en train de se passer actuellement et dont j'ai l'impression qu'on ne parle pas énormément. Donc en fait, sur la situation des personnes étrangères en France, il va y avoir très prochainement à Mayotte une opération d'ampleur à la fin du mois d'avril qui va consister... Donc à Mayotte, il y a beaucoup de personnes qui viennent des Comores qui habitent là-bas et il va y avoir une énorme opération avec des énormes renforcements des moyens policiers pour, en fait, ça s'appelle décaser les personnes, donc les virer de leur logement informel. Et une expulsion massive des personnes vers les Comores. Et donc, on est sur une opération qui va très certainement être violente, être brutale et à la limite de l'état de droit. Parce que le caractère massif, il va nécessairement avoir un impact sur la possibilité de recourir de manière effective au juge avant d'être éloigné du territoire, avant d'être délogé de chez soi. Donc, il me semblait que c'était aussi intéressant qu'on aborde cette actualité.
Petite question pour Émile avant de passer à la suite. Tout à l'heure, tu parlais de la CEDH qui s'implique sur le territoire européen. Est-ce que Mayotte et les différentes dispositions qui se trouvent dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables sur le territoire de Mayotte ?
Légalement, oui. C'est l'État français. Donc, il n'y a pas de raison que, sous prétexte que ce soit un département d'outre-mer, il y ait des dispositions légales qui soient différentes. Bien que, très concrètement, en droit des étrangers, à Mayotte, il y a des dispositions spécifiques sur ce département, ce qui est un peu une anomalie juridique assez curieuse.
Anomalie juridique et puis aussi une façon de traiter à la fois l'actualité ici sur le territoire métropolitain et la façon aussi de traiter des humains qui se trouvent plus loin et avec une représentation qu'on peut s'en faire en métropole qui nous semble donc plus éloignée de nos problématiques. Ça permet de continuer à faire un petit peu la suite des différents engagements que prend le ministre de l'Intérieur dans l'actualité du débat français. On a beaucoup parlé de l'impact finalement de ce qu'il met en place sur des questions de solidarité internationale et puis au sein même du territoire français. Mais il y a aussi un certain nombre d'actualités qui concernent directement notre avenir écologique au sens vraiment de la gestion de nos ressources. Et juste pour réintroduire un tout petit peu le contexte dans lequel ces questions peuvent se poser avant de te donner la parole, Félix, c'est ce qui s'est passé à Sainte-Soline. On rappellera juste que nous sommes aujourd'hui sur une trajectoire de 1,1 degré à l'heure actuelle d'augmentation de la température depuis le début de l'ère industrielle, sachant que si rien n'est fait, les projections peuvent être à 4 degrés d'ici 2050. Et on rappellera cet hiver que nous étions, dès le mois de février, en sécheresse hivernale avec plusieurs semaines et parfois même un mois entier selon les différents départements français sur des territoires où il n'a pas plu du tout et où la question de l'eau devient de plus en plus marquante et de plus en plus problématique avec un été qui est peut-être celui de tous les dangers, sachant que nous ne sommes entre guillemets que en 2023. Bonsoir Félix.
Bonsoir.
Tu étais à Sainte-Soline et ce que je te propose pour les 10 grosses minutes, 10-15 minutes qui arrivent, c'est de nous présenter de façon un peu chronologique ce qu'il se passe et les grands enjeux qui se passent à Sainte-Soline en questionnant en amont ce qu'il se passe à Sainte-Soline. Et peut-être que je vais commencer par cette question-là. Que se passe-t-il à Sainte-Soline ? Et ensuite, je te demanderai ce qu'il s'est passé lorsqu'il y a eu des interventions policières. Et après, nous discuterons des différentes incidences que cela peut avoir pour la suite du débat public et aussi pour la suite de l'engagement écologiste.
À Sainte-Soline, concrètement, et partout dans la région des Deux-Sèvres et dans les régions alentours, il y a des partenariats privés-publics qui visent à construire des méga-bassines. Très rapidement, une méga-bassine, c'est littéralement ce que le nom indique, c'est un gros bassin d'eau à l'air libre, mais qui va servir principalement à l'agriculture. Et en fait, l'idée... D'ailleurs, ces grosses bassines, c'est de venir prélever de l'eau dans les nappes phréatiques quand elles sont rechargées pour pouvoir l'utiliser pendant l'été, pendant les périodes de sécheresse. Donc du coup, c'est des partenariats, comme j'ai dit, privé-public. Le principal acteur derrière les politiques, derrière les méga-bassines, c'est la FNSEA, qui est un syndicat d'agriculteurs, de certains agriculteurs. On parle en fait des gros agriculteurs industriels qui ont des méga-exploitations de... énormément d'hectares de monoculture, énormément dirigés pour nourrir le bétail. Et donc du coup, le principe de ces méga-bassines, en fait, il pose plusieurs problèmes et sur le plan agricole et écologique, et sur le plan politique. Donc déjà, d'un point de vue juste de l'agriculture, en gros, comme on l'a dit, c'est des gros industriels, et c'est le principe des méga-bassines, c'est de venir servir... environ moins de 5% des agriculteurs qui ont des modes d'irrigation assez spécifiques dont on pourrait discuter de la pertinence technique puisque en fait ce sont des modes d'irrigation finalement assez médiocres et qui défavorisent complètement et les agriculteurs et les gens qui habitent dans les régions qui sont concernées par les méga-bassines. C'est un autre défaut technique qui est peut-être anodin, mais en fait, le principe même d'une mégabassine, c'est quand même complètement con parce que il y a quand même un concept d'évaporation qui existe.
Tout l'été.
Surtout l'été. Et en fait, une mégabassine perd en moyenne entre 40 et 60% de la masse d'eau qu'elle va récupérer. Donc, du coup, c'est vraiment un projet qui est absolument aberrant et c'est une technique absolument aberrante et qui est vraiment mortifère pour l'agriculture et pour la région. Et d'un point de vue politique, ça nous amène aussi à des questions qui sont vraiment problématiques sur la question de la privatisation de l'eau, sur la question du pouvoir qu'on a sur l'eau et sur les questions qui vont se poser dans le futur, puisque, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, on a eu des sécheresses cette année, on a eu des sécheresses l'année dernière. Là, en février, on a connu des nappes phréatiques qui, supposément, du coup, devraient permettre de recharger l'eau l'été qui était complètement à sec. Donc, du coup, en fait, on se demande même quelle eau ils vont venir prélever avec ces bassines. Et du coup, à la base, devait y avoir. Là, il y avait deux mégabassines en construction, dont celle de Sainte-Soline, où il y a eu une action en automne dernier, déjà organisée par les soulèvements de la terre et non aux bassines. Et à la suite, en fait, de cette manifestation, le ministère de l'Agriculture a annoncé la construction du coup, de 500 mégabassines, du coup, principalement dans la zone sud-ouest atlantique de la France. Et donc, du coup, là, le week-end dernier, il y avait une grande manifestation qui était organisée, qui avait pour but de venir reprendre la bassine de Sainte-Soline une deuxième fois, puisque le chantier avait été envahi lors de la manifestation d'automne.
Et alors juste avant de parler de cette manifestation, pour qu'on puisse quand même bien comprendre ce qui est en train de se passer, l'idée, et tu me coupes si jamais je me trompe, c'est effectivement d'aller ponctionner la ressource en eau au niveau des nappes phréatiques, et donc vraiment là on est sur du pur bien commun en fait, pour le mettre à disposition, enfin le mettre dans des mégabassines avec un risque, enfin c'est même pas un risque, avec une évaporation qui peut aller de 40 à 60%, payée par des partenariats publics-privés, donc ça veut dire que l'État français, donc nos propres impôts, participent à payer ça, pour que cette eau qui est de l'eau qui appartient en commun soit mise à la disposition des différents partenaires privés qui ont participé à la construction des mégabassines et qui donc vont s'approprier cette eau commune, qui en plus est pour au moins la moitié évaporée en cours de route. On est bien d'accord.
Voilà, c'est ça. Et puis c'est vraiment pour servir vraiment un modèle de l'agriculture. Enfin, la FNSEA, c'est vraiment une mafia extrêmement dangereuse et vraiment avec des méthodes qui vont quand même jusqu'à des tentatives d'assassinat assez régulières d'opposants. Là, encore il y a quelques jours, il y a un des principaux opposants à la FNSEA qui a retrouvé pour la deuxième fois sa voiture sabotée. On a eu aussi des gens qui sont venus menacer directement au domicile en le saccageant, des choses comme ça. Enfin, on parle d'un groupe, la FNSEA, en l'occurrence, qui est vraiment quand même particulier, qui défend un modèle d'agriculture qui est particulier. En 15 ans, on a connu la disparition de la majorité des agriculteurs de la campagne. C'est notamment dû à cette politique qui vise toujours à favoriser les méga-exploitations, la mécanisation systématique, etc., la monoculture. Là, on est vraiment et à la fois sur s'accaparer un bien public et en même temps ruiner l'agriculture d'un autre côté.
Ouais, on n'est pas du tout sur de la permaculture et le fait de replanter des haies, le fait de faire en sorte que le territoire soit enraciné, donc qu'il puisse y avoir une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes phréatiques par un sol qui soit bien avec des racines et donc l'eau qui puisse s'infiltrer, mais vraiment sur de la ménaculture, de la monoculture avec un risque ensuite de quand il pleut très fort qu'il puisse y avoir un ruissellement. On parle des questions en amont, donc effectivement ça pose énormément de questions et on pourrait en parler pendant bien plus longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé concrètement lors de cette manifestation?
Du coup c'était un week-end qui était organisé à la base, il n'y a pas juste une manifestation, il y a un campement avec un festival avec des choses finalement qui j'imagine ont dû faire trembler leurs femmes Darmanin depuis Paris, puisqu'il y avait des cantines, des concerts, des conférences sur la question de l'agriculture à l'international, la question de l'eau internationale. Et puis le samedi, du coup le matin, il y avait une manifestation qui était au départ de ce camp, qui a réuni à peu près 30 000 personnes, notamment des personnes, avec beaucoup de personnes qui venaient finalement aussi de l'étranger, puis des gens de partout en France. Et du coup, nous on est monté depuis Marseille, là-bas. Et du coup, la manifestation, elle avait pour but de revenir symboliquement sur le chantier de la bassine de Sainte-Soline. Alors, juste pour s'imaginer concrètement ce que c'est un chantier de méga-bassine, c'est littéralement un trou dans le sol, concrètement. Il n'y a pas grand-chose de plus, en fait, sur place. Il y aurait, à la limite, des pompes ou des systèmes d'irrigation, mais en fait, ils ne sont pas vraiment encore installés. Il y a une bâche qui la protège. Donc là, il faut imaginer ça. Et du coup, pour faire le récit un peu, on a quand même affaire à quelque chose qui est absolument délirant. C'est-à-dire qu'on avait l'annonce de la réquisition de 3200 membres des forces de l'ordre juste sur la durée du week-end. Donc ça nous fait un ratio 1 sur 10. Je trouve que c'est quand même assez beau nombre. Et puis avec des moyens finalement hollywoodiens, on avait 9 hélicoptères pour filmer ces dangereux campeurs. On avait des quads, des camions de gendarmerie, deux véhicules blindés, un camion à eau. Donc voilà, on avait finalement le grand jeu. Ils étaient disposés du coup tout autour du chantier, donc les manifestants se sont élancés. Et puis il y avait un plan en fait de venir un peu envahir la bassine en jouant du nombre, c'est-à-dire en entourant la bassine puis en avançant sur les forces de l'ordre pour juste déborder leur dispositif. Et ça a valu à ces dangereux terroristes intellectuels une série de à peu près une heure et demie de répression assez sanglante, puisqu'on dénombrait en tout cas à la sortie du week-end 200 blessés, dont 40 en situation d'urgence et 2 dont le pronostic vital a été engagé. Beaucoup des personnes en situation d'urgence ont des pronostics fonctionnels engagés, c'est-à-dire question de un handicap, des séquelles à vie, etc.
Et toi-même, tu faisais partie des blessés?
Alors justement, c'est pour ça que j'ai précisé que c'était à la sortie, parce qu'en fait, moi, sur le moment, je considérais que je n'étais pas blessé. J'avais juste deux hématomes et des acouphènes. Et en fait, beaucoup de gens ont eu des blessures légères. Moi, j'ai eu les tympans fissurés des deux côtés. Et là, je dois faire des examens pour vérifier que l'oreille interne n'est pas touchée. Ou en tout cas, à quel point elle est touchée, plutôt.
Et qu'est-ce que tu peux dire sur le mouvement de le fait de considérer des activistes, parce qu'il y a quand même une notion d'activisme, pour l'intérêt commun, et surtout quand on sait, avec les rapports du GIEC, et que ça se sent de plus en plus palpable que la biosphère est en train de se dérégler complètement, et que le mouvement de l'Anthropocène, où notre impact sur la Terre est de plus en plus marqué, et nous amène vers un horizon très incertain, que parallèlement à ça, et aussi en contrebalance du débat public et puis de la volonté qui est aussi affichée par le gouvernement de vouloir organiser une grande transition du territoire, qu'il y ait une forme de criminalisation et de ces personnes qui se battent pour éviter les projets qui sont absurdes, comme on l'expliquait avant, et de vouloir les inscrire dans un débat public où ils sont présentés comme... tu parlais de terroristes, tu parlais de personnes très méchantes. J'imagine que quand tu emploies ces termes-là, il y a une raison derrière.
Bah ça, c'est des termes qui ont été employés déjà à l'époque, en automne, puis là récemment par Darmanin. C'était la réponse, quoi. C'est un peu leur concept pour définir le mouvement des soulèvements de la Terre, qui est rien d'autre qu'en fait une espèce de grand tissu politique qui réunit des gens qui vont de la Confédération paysanne, hein, oui, en effet, des militants révolutionnaires, à tout un tas de personnes finalement de bords et d'horizons politiques différents. Mais c'est parce qu'on a affaire à des gens qui sont incapables de penser autrement politiquement qu'en termes de hiérarchie, de chef, de terroriste, de réseau, de mafia. Et du coup, là, c'est ce qu'ils ont lancé. Quand ils ont lancé à la suite de ça une procédure de dissolution des soulèvements de la Terre à la suite de la manifestation du week-end dernier. Et je leur souhaite bon courage pour trouver tous les cantiniers et toutes les personnes qui participaient. Enfin, c'est absolument ridicule, ce rapport de militarisation permanent qu'ils font face au mouvement social. Ce rapport de militarisation qui se retrouve dans le budget et la violence et les armes de guerre qui sont employées pour réprimer, et dans la construction policière absolument aberrante qui est en train d'être faite. Comme le disaient les camarades, on ne dissout pas un soulèvement. Et là, on a affaire à vraiment un rapport qui est un rapport de force, et je pense qu'il ne faut pas... il ne faut pas le nier. On a une gendarmerie qui a quand même utilisé vraiment des techniques qui sont des techniques militaires, puisque leur stratégie principale, le jour J, ça a été de couper la ligne logistique de soins. Donc c'était d'empêcher d'avoir accès à du matériel de soins et à des ambulances pour s'assurer de la fixation de l'attention, pour s'assurer... Ça, c'est vraiment des stratégies qui sont des stratégies d'ordre militaire. Moi, je pense qu'il faut s'interroger. La bassine à construire, une méga-bassine, c'est entre 1 million et 4,7 millions d'euros. Mmh. La répression à Sainte-Soline, elle a coûté à minima 5 millions d'euros. Donc là, je pense qu'il faut s'interroger, parce que c'est quand même à 70% financé par nos impôts, cette répression. Puis il faut s'interroger aussi sur du coup, la valeur de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont prêts à protéger des méga-bassines à ce prix-là. Donc en fait, se questionner sur pourquoi ils ont autant envie de les faire et comment ça va nous impacter.
Merci Félix. On va quand même essayer de donner une toute petite pointe d'espoir par rapport à ces deux témoignages très forts qu'on a eus sur la politique qui est menée à l'heure actuelle par le ministre de l'Intérieur. Dans notre émission, souvent, on essaie de finir sur la question des imaginaires. Et en matière d'imaginaire, il y a un auteur qui est particulièrement fort, qui s'appelle Alain Damasio, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les furtifs ». Et dans la question des furtifs, que je vous conseille vivement de lire, il traite finalement de questions qui sont à la fois liées à le traitement des étrangers, souvent assimilés à des terroristes, et le fait d'inventer des faux ennemis de l'intérieur, appelés les furtifs, pour finalement fédérer une société dans la peur et maintenir le pouvoir en place. Et c'est assez fascinant parce qu'il y a un moment dans ce livre que je vous invite très fortement à lire où il y a une grande bataille qui se mène avec les furtifs et finalement tous les mouvements écologistes de partout qui se retrouvent sur l'île de Porquerolles et qui mènent un combat qui est complètement démesuré entre des petits écologistes qui finalement sont là uniquement pour faire des festivals et défendre une terre et ensuite des mouvements militaires disproportionnés utilisés par les forces étatiques pour les déloger et dans le but d'en faire finalement une récupération politique qui soit simplement dans le but de maintenir une forme d'inertie de pouvoir en place. Simplement, l'invitation à entrer dans le mouvement et à suivre cette hybridation entre les différentes formes de vivant à laquelle Alain Damasio nous invite à rentrer fait que la révolution vient par plein de petits archipels qui se mettent en place et par le fait que chacun et chacune nous soyons touchés dans nos cœurs et que sans que nous ayons à avoir un grand plan qui arrive d'en haut, nous arrivions à sortir de ces pinces qui nous tiennent un petit peu coincés. Et c'est la conclusion du livre des furtifs qui est, encore une fois, vivement conseillé de lire. Et ce que vous avez témoigné ce soir, d'abord lorsqu'on a parlé du droit des étrangers, puis lorsqu'on a parlé finalement des répressions de guerre contre des activistes écologistes, ça s'inscrit finalement assez proche de ce qui était considéré comme de la science-fiction lorsque le livre est sorti en 2019, je crois, qu'il n'est plus tellement aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir témoigné sur ces sujets lourds, et c'est pour ça que je préférais finir par cette petite note sur les imaginaires. Merci Félix, merci Émile, merci Léa.
Merci à toi.
Merci.
Et nous rendons l'antenne. Bonne soirée, à la semaine prochaine.